Bonjour tout le monde, pour ce nouveau format rencontre, j'ai la chance d'être avec Adeline Dudonné. Adeline Dieudonné, c'est une autrice belge qu'on a la chance de bien connaître à Frustration Magazine. On s'était rencontrés il y a 3 ans pour notre premier gros numéro papier. On avait fait un entretien ensemble. Depuis, pour la transparence de cet entretien, on est amis. Et donc, je te reçois pour parler notamment de ton dernier livre qui s'appelle « Dans la jungle ». Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Adeline, que donc, ce qui t'a vraiment lancé, c'est un livre qui est sorti en 2018, qui s'appelle « La vraie vie ». C'était vraiment un livre sur la violence patriarcale, sur la violence qu'on inflige aux enfants. Mais c'était un peu écrit comme un conte, c'est-à-dire que c'était un livre à la fois qui parlait beaucoup de violence, mais qu'on pouvait lire sans se la prendre en pleine face. Et voilà, ça t'a vraiment fait connaître et ça t'a propulsé comme étant écrivaine, romancière. Et maintenant, c'est ton métier.
Absolument.
Voilà. Donc, tu habites à Bruxelles. Là, aujourd'hui, on est à Paris, dans le cadre de la promo de ton livre « Dans la jungle ». « Dans la jungle », donc, c'est un livre qui parle de plusieurs types de violences. Donc, à la fois la violence patriarcale, la violence masculine envers les femmes, mais aussi la violence des adultes envers les enfants, et la violence capitaliste, la violence de la bourgeoisie. Donc un peu, je commencerai peut-être par là, direct, si ça nous intéresse particulièrement, c'est que c'est vraiment un livre qui parle de la bourgeoisie, et notamment, donc il prend place dans une petite ville fictive située dans la périphérie de Bruxelles, une ville où tu la décris comme étant en apparence, c'est pas clinquant, mais c'est là que vit toute une partie de la moyenne bourgeoisie belge. Et pour ceux qui nous regardent, déjà ce milieu-là, dont tu expliques d'ailleurs très bien dans la promo de livre que tu en viens, comment tu décrirais cette bourgeoisie belge, notamment par rapport à ce qu'on peut connaître de la bourgeoisie française ?
En fait, je connais pas bien la bourgeoisie française et je connais. En fait, je crois qu'il y a 50 nuances de bourgeoisie. Il y a vraiment plein de façons différentes. Et puis, il faudrait encore redéfinir le terme. Enfin, voilà, c'est toujours. Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une situation financière? Bon, mais là, en tout cas, très clairement, là où ça se situe, c'est dans le Brabant wallon. Donc, c'est effectivement là que j'ai grandi. C'est dans la commune qui a l'assiette fiscale la plus élevée de Belgique francophone. Donc, c'est quand même, c'est quand même la financièrement, on est très très haut. Et en même temps, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que il y a des médecins, il y a des assureurs, il y a des commerçants, et il y a des gens aussi qui sont vraiment issus de familles extrêmement riches, vraiment les grandes familles belges, notamment qui ont fait fortune dans la bière ou dans l'industrie pharmaceutique ou dans la métallurgie et enfin voilà tout ce qui était le produit des mines. Donc on a un petit peu tout ça et donc de nouveau en fait même dans cette ville-là il y a différents niveaux de richesse, différents niveaux de bourgeoisie. Peut-être le point commun qu'on peut trouver parmi tout le monde à quelques très rares exceptions près, c'est que ce sont des héritiers. C'est que c'est a priori une fortune qui s'est sauf très rares exceptions où on peut avoir des footballeurs qui ont percé, qui habitent là, ou des acteurs, ou des chanteurs qui éventuellement peut-être venaient d'autres milieux, mais sinon c'est plutôt des gens qui ont hérité et qui ont fait fructifier leur patrimoine.
Très bien. Et je voudrais revenir sur donc le résumé du livre. Alors je spoil personne parce qu'en fait c'est annoncé d'emblée. On sait ce qui va se passer. C'est un livre qui est construit. C'est un procédé qu'on peut voir ailleurs, mais qui fonctionne particulièrement bien. On apprend au début qu'il va se passer un féminicide et un double infanticide. Donc, au sein d'un foyer de cette bourgeoisie, un homme, un mari et un père va tuer sa femme et ses 2 enfants. Donc, c'est quand même ça la situation de départ. Et après ce premier chapitre, cette introduction, on revient donc 20 ans en arrière.
15 ans, oui.
15 ans en arrière, donc au moment de la rencontre. Tout le livre, ça va être la description de toutes ces choses qui conduisent à cette situation. Et voilà, le lecteur sait, ce qui va se passer, le lectrice-lecteur sait ce qui va se passer. Mais quand ça commence, évidemment qu'on a affaire à une rencontre amoureuse assez classique. Et en plus, ça se passe dans un milieu qui n'est pas le milieu dont on décrit le plus souvent la violence. Donc je vais commencer, peut-être on parlait de la bourgeoisie, ensuite on va revenir sur cette question du féminicide, des infanticides, mais pourquoi est-ce que c'était un choix de ta part, enfin c'était un choix de ta part que ça se passe dans la bourgeoisie et pas ailleurs? Pourquoi tu as voulu raconter cette histoire dans la bourgeoisie?
Bah, en fait, quand j'ai commencé à écrire le roman, il y avait deux envies parallèles qui étaient, j'avais envie de raconter les circonstances dans lesquelles se produit un féminicide et un double infanticide, les circonstances de la violence intrafamiliale, qui est effectivement un sujet qui me suit depuis que j'ai commencé à écrire. Et en même temps, j'avais envie de parler de ce milieu duquel je viens. Parce que d'une part, c'est plus facile pour moi, parce que c'est un milieu que je connais très bien, que je connais intimement, et que je crois que si je devais commencer à raconter la vie de personnages dans les classes populaires, je risquerais d'être assez maladroite, en fait, et de plaquer des clichés. Donc voilà, il y avait quelque chose d'un petit peu paresseux aussi, qui est au moins, je sais exactement comment ils pensent, comment ils mangent, enfin ce qu'ils mangent, et vraiment leurs conditions matérielles d'existence. Je ne devais pas faire de travail de documentation par rapport à ça. Et puis une chose peut-être qui était intéressante aussi pour moi, c'était de montrer. Je crois pas tant que c'était de démontrer que la violence intrafamiliale existe aussi chez les classes aisées, parce que je crois que maintenant tout le monde le sait, que c'est pas juste une histoire d'ouvrier alcoolique qui commet des violences dans sa famille, ça on le sait. Mais peut-être qu'une façon de montrer le contrôle coercitif à nu, c'était justement de débarrasser la victime, enfin Aurélie, mon héroïne, de la contrainte économique. Et donc, elle a les moyens de partir, ce qui bien souvent n'est pas le cas. Enfin, l'argent est un obstacle pour beaucoup de femmes qui vivent ces violences. C'est pas le cas d'Aurélie. Et donc, une fois qu'on enlève cet obstacle-là, eh ben, il reste vraiment juste le contrôle coercitif. Et ça m'intéressait de pouvoir le montrer de façon complètement nue, quoi. Parce qu'elle a vraiment les moyens de partir. Ça, c'est pas un problème. Mais pour autant, elle part pas, enfin, ou en tout cas, elle part pas tout de suite.
Et oui, et ça te permet de te concentrer sur les facteurs psychologiques qui vont empêcher ce départ.
Ouais.
Donc on va y revenir tout à l'heure. Pour continuer un petit peu sur la bourgeoisie, dont du coup tu es une témoin privilégiée, que tu connais intimement, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est il y a quelque chose dans ton roman qu'on ne voit pas toujours, c'est les rapports aux objets. On voit que dans cette vie bourgeoise, alors moi ce qui m'a frappé, bon, en plus, pour être transparent, tu m'as montré les lieux où ça se passe. On les a visités ensemble. Donc, moi, ce qui m'a frappé en voyant ces petites communes verdoyantes de Belgique huppées, c'est que donc c'était pas un luxe tapageur. Hein, c'est pas Saint-Tropez. C'est pas le 8e arrondissement de Paris. C'est pas Neuilly-sur-Seine. Bon, déjà, c'est plus vert. C'est des maisons qui d'extérieur peuvent avoir l'air petites, mais sont en réalité très grandes. Voilà, ça tu m'as bien expliqué. Et qui peuvent donner l'impression d'une certaine sobriété, alors qu'en fait, pas du tout. Et dans ton livre, tu montres bien la place de tous ces objets, tu les nommes d'ailleurs, que ce soit les marques de voitures, qui sont toutes des SUV, que ce soit les systèmes de son, de très qualitatifs, le mobilier, etc., etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai l'impression que le consumérisme, quand il est décrit dans la fiction ou dans la sphère culturelle, il est décrit. C'est surtout le consumérisme des classes populaires dont on va parler. Et d'ailleurs, même le mot consumérisme, en fait, fait plutôt penser à des produits de basse qualité, à des enseignes comme Jiffy, aux promotions Nutella, etc. Et toi, en fait, t'exposes vraiment le consumérisme de la bourgeoisie. Pourquoi t'as autant insisté sur cette question des objets, pourquoi c'est important dans ton histoire de voir ce que ces gens consomment, en fait?
Bah, parce que d'une part, c'est important pour eux. Et puis parce que justement, je voulais avoir une approche très matérialiste, parce que c'est peut-être une question qui est souvent éludée dans les récits qui mettent en scène la bourgeoisie, c'est qu'on parle assez peu en fait de leurs conditions matérielles d'existence. Et moi, j'avais vraiment envie de pas faire l'impasse là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup. justement, et de savoir déjà combien ils gagnent, de combien ils ont hérité exactement. Donc voilà, s'ils roulent dans telle voiture, s'ils peuvent se permettre une voiture qui coûte autant, ben c'est parce qu'ils ont un salaire de autant et c'est aussi parce qu'ils ont hérité d'autant. Et je trouvais ces questions-là assez intéressantes. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qui fait partie d'un mode de vie. Et donc ça me semblait, j'avais lu en écrivant Les choses de Pérec. Et évidemment, j'ai adoré le fait de définir des gens par leur
Oui,
possession,
dans les choses, moi j'ai lu ça il y a longtemps, mais c'est vrai que la spécificité du livre, c'est que on les voit évoluer à travers ce qu'ils possèdent.
Oui.
C'est des gens au début plutôt modestes, et puis petit à petit, cette accumulation qui les met en joie, et quand on lit le livre, on est très content dès qu'ils acquièrent un truc aussi.
Ouais,
Ça donne
ouais.
envie d'accumuler, en fait.
Ça donne aussi envie d'accumuler.
Enfin, pas totalement, mais sûrement.
Mais c'est vrai que c'est un consumérisme qui est particulier, qui peut aussi être, par exemple, peut-être parfois plus immatériel aussi. Je pense par exemple au voyage. C'est des gens qui partent beaucoup, qui s'offrent pas mal de loisirs, de vacances, et qui donc, ont un bilan carbone qui est quand même assez conséquent, puisqu'évidemment, il s'agit de se déplacer, de prendre des avions et tout ça. Et puis moi, j'ai eu l'occasion aussi de le voir pas mal, parce que j'ai très brièvement travaillé en architecture d'intérieur dans un bureau d'études qui se situait vraiment à cet endroit-là, dans le Brabant
D'accord.
wallon. Et c'est vrai que je suis partie très vite parce que une chose qui m'avait frappée, c'était ce consumérisme aussi à travers. Donc là, c'est vraiment sur la maison, les objets de la maison, mais aussi la maison en elle-même. Donc par exemple, des gens qui allaient faire refaire leur cuisine. Et moi, j'arrivais dans ces maisons, la cuisine, elle était nickel, quoi. Elle avait 10 ans. Une cuisine qui a 10 ans, a priori, elle est encore super bien. Mais non, il fallait changer parce que la mode avait changé, parce que ouais, peut-être il y avait des charnières qui commençaient à grincer, enfin, j'en sais rien, ou des petits trucs
Et
qui
qu'est-ce qu'on
commençaient
refait
à.
dans une cuisine parfaite?
Ah, on l'a détruit entièrement et on l'a refait
Ok.
entièrement.
Et
Et
par
puis.
exemple, c'est quoi? Ça va être, on va chercher des matières plus nobles, genre du marbre et tout. C'est comme ça que j'imagine, mais.
Ouais, alors ça, c'est peut-être, de nouveau, tu vois, c'est peut-être un peu cliché parce que c'est toujours ça qui est compliqué, c'est que il faut jamais que ce soit clinquant, il faut jamais que ce
D'accord.
soit trop ostentatoire. Alors, il y a évidemment de l'ostentation, notamment à travers les véhicules, tu vois, ça c'est vraiment très important. Mais par exemple, le marbre, on va choisir de la pierre bleue, on va choisir
D'accord.
des matériaux qui sont, mais jamais de dorure, par exemple. Tu vois, ça c'est Trump, ça c'est le côté riche vulgaire.
Ouais.
Donc il y a aussi une façon de se distinguer comme ça qui est plus moins clairement ostentatoire, et en même temps, on refait sa cuisine parce que quand on reçoit des amis, il faut que la cuisine soit jolie à regarder, et surtout dans les matériaux qui sont dans l'air du temps. Donc à l'époque, c'était vraiment les terrazzos. Pour les plans de travail, et alors les sols, c'était le béton ciré, tu vois. Et je dis ça, j'ai du terrazzo et du béton ciré chez moi.
Ah, d'accord, ok, je vois à quoi ça
Donc en
ressemble.
plus, ça ne veut pas dire que c'est des trucs qui sont particulièrement chers, mais voilà, c'est suivre la mode, c'est dans la tendance, quoi.
D'accord. Ils font quoi comme métier, tes personnages, dans le livre?
Alors Aurélie, elle est claire de notaire.
Ah oui.
Donc elle a fait des études de droit et voilà, c'est pas une fille qui est particulièrement ambitieuse, et elle aspire plutôt à une vie qui ressemble à celle de ses parents parce qu'elle a un modèle. Ses parents, sa mère était pédiatre et son père dirigeait, était propriétaire d'une compagnie d'assurance, enfin d'une agence d'assurance. Donc voilà, elle est pas super, elle aspire pas à gagner des milliers et des cents, parce qu'en fait elle sait qu'elle va hériter de pas mal d'argent, avoir une vie relativement confortable, et voilà, elle est pas du tout dans cette espèce d'idée de vouloir à tout prix transformer, et faire évoluer la fortune familiale. Arnaud, ça c'est tout à fait différent. Lui, il a hérité de l'entreprise de son père. C'est une entreprise de magasins, c'est une chaîne de magasins de nuit. Et lui, justement, il a envie de transformer l'entreprise de papa, qu'il trouve justement pas assez ambitieuse. C'est il y a une quinzaine de magasins, et lui, il voit grand, il rêve. Et même au départ, quand ils se rencontrent, il dit. Mon père aimerait bien que je reprenne la boîte, mais moi j'ai envie d'autre chose. Puis je rêve de faire des choses à l'étranger. Il y a aussi beaucoup ça, tu vois, d'explorer des nouveaux territoires, avec une un fond d'esprit colonial aussi, hein, tu vois, d'aller civiliser ou en tout cas d'aller prêcher la bonne parole entrepreneuriale dans des coins du monde où peut-être on ne l'a pas encore bien intégré.
La bourgeoisie belge, elle est encore imprégnée de colonialisme, comme la bourgeoisie française, par exemple.
Bah oui, je pense, hein. Bah déjà les fortunes, en fait, c'est super récent pour nous la colonisation. Donc en fait, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui en Belgique, ça vient de là directement. Donc et je crois que ouais, dans cet esprit entrepreneurial, j'ai quand même beaucoup entendu ça, ce truc de vouloir être un expat. Ils adorent ce mot-là, expat. Et ouais, donc. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut plus aller couper des mains au Congo parce que ça, on a quand même bien compris que c'était pas terrible. Mais cette idée de civilisationner des gens peu civilisés, ça reste quand même un petit peu, ouais, je trouve.
Pour le contexte historique, donc la Belgique a colonisé le Congo, mais sous un régime un peu spécifique. C'était un territoire directement géré par la
Oui,
royauté.
en fait, bon, alors je ne suis pas du tout une spécialiste, donc s'il y a des historiens qui m'écoutent, bouchez-vous les oreilles. Ouais, en fait, Léopold II était propriétaire lui-même. Donc, en fait, au départ, le territoire qu'il avait acquis, enfin, ou qu'il avait conquis, enfin, qui s'était approprié, en tout cas, au Congo, lui appartenait à lui en propre. Et puis après, ça a été recédé à la Belgique. Et puis surtout, il y avait des concessionnaires, il y avait des types qui allaient là-bas et à qui ils confiaient des concessions. Et donc, l'idée, c'était de majoritairement d'exploiter le caoutchouc. Parce que c'est aussi le début de l'automobile et tout ça, il fallait mais donc oui, on a une situation assez particulière où c'était le roi Léopold II et donc il y a eu des méthodes. Bon, alors évidemment, les méthodes coloniales sont toujours horribles, mais chez nous, elles ont été vraiment particulièrement atroces et sanglantes. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment, les Français ont voulu démontrer que justement, eux, ils colonisaient d'une façon beaucoup plus propre que les Belges.
D'accord.
Parce que vraiment, la colonisation belge était réputée pour être particulièrement sanglante, ouais.
Comme il y en a eu à Paris dans les
Oui,
années 30.
tout à fait.
Pour revenir à cette bourgeoisie donc contemporaine, il y a un truc que tu documentes pas mal, je trouve, même si c'est par petites touches. Encore une fois, voilà, ça reste un roman, c'est pas un livre de sociologie, mais voilà, il y a un effet de réel qui est très très fort du fait du nombre de détails que tu donnes, parce que tu es connaisseuse de ça. C'est la question du rapport à la loi. On voit que c'est des gens qui sont prompts à dénoncer ce qu'ils estiment être les atteintes délictuelles, les crimes des classes populaires et surtout des immigrés dans certains quartiers de Bruxelles, mais que pour ce qui les concerne, eux, leurs petites entorses à la loi, notamment la fraude fiscale, ça leur semble parfaitement justifié.
Oui, c'est ça. Bah, c'est toujours ce rapport à la violence qui est, enfin, à la loi, mais aussi à la violence. Je
Ok.
trouve qu'il y a vraiment à géométrie variable où, oui, on va parler de ah là là, Bruxelles, c'est plus comme avant. C'est vraiment, il y a des quartiers qui sont des coupes-gorges, des zones de non-droit. Hein, ils adorent utiliser cette expression. Mais voilà, c'est toujours, ils vont jamais dire Monaco, zone de non-droit, ou le Brabant wallon, zone de non-droit. Donc il y a toujours cette façon de se positionner du côté de la loi, alors que effectivement on sait très bien que bah la fraude fiscale elle est largement pratiquée et que c'est plutôt vu comme alors c'est oui d'accord on fait des entorses à la loi mais c'est de la légitime défense. Ça c'est pour la fraude fiscale mais il y a aussi ce qui m'intéresse aussi c'est le rapport au code de la route. Là aussi tu vois les excès de vitesse c'est pas très grave et c'est certainement pas considéré comme de la violence alors que c'en est une vraiment d'avoir des conduites dangereuses les excès de vitesse ou la consommation d'alcool au volant et puis alors évidemment bah, tout ce qui est violence sexiste et sexuelle et quand on voit des affaires comme enfin, voilà, on va pas refaire la liste, mais que ce soit Sarkozy, Weinstein, PPDA, Depardieu, enfin voilà, en fait tous ces gens qui sont issus de la, enfin qui sont des bourgeois et qui enfreignent la loi, en fait, on en a des listes énormes, mais Ah, c'est jamais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et surtout, ben, ces gens-là ne méritent pas d'aller en prison.
Oui. Maintenant, pour parler de ta démarche de romancière, il y a quelque chose qu'on sent dès le titre, et tu l'expliques très bien. C'est le titre, le livre s'appelle Dans la jungle, et ce choix, il n'est pas neutre parce que tu te positionnes de façon extérieure, comme si tu étudiais un écosystème de façon froide, distante, un peu surplombante, et tu expliques, quand tu parles du titre, que c'est une façon pour toi de retourner un petit peu le regard qui est souvent porté sur les classes populaires. Enfin, en tout cas, de regarder la bourgeoisie comme on regarde les classes populaires. Et ça, tu te réfères parfois à un concept qui nous est cher, puisque, bah, notamment, enfin, celui qui en a parlé le premier dans un article, c'était Rob Grams, et maintenant il en a parlé dans un livre qui s'appelle Bourgeois Gaze, donc le regard bourgeois. Lui, il parle du regard bourgeois au cinéma. Donc, comment au cinéma, la bourgeoisie, du fait bah, de sa mainmise sur le monde du cinéma et sa production, décrit le monde à travers ses lunettes. Donc ça passe par une série de procédés, bah, surreprésenter les bourgeois déjà. Et puis quand il s'agit de parler des classes populaires, des classes laborieuses, on va les regarder avec un certain regard. Ce regard, il peut être tragique, condescendant, méprisant. Et donc toi, en fait, on en avait parlé il y a 3 ans quand on s'est rencontrés. Déjà, cet article t'avait beaucoup marqué et tu t'es dit, bah, il y a aussi un bourgeois, il y a aussi un bourgeois gaze en littérature. Comment il se traduit selon toi?
Oui, alors avant de répondre à ta question, vraiment cet article m'a été vachement utile parce que il a débloqué un truc chez moi qui était que j'ai toujours ouais vécu comme je trouvais un certain embarras à venir de ce milieu-là et parce que c'est aussi un milieu qui est à sa façon stigmatisé quand tu dis que tu viens de là. Ouais, y a un côté assez délégitimisant ou surtout quand tu te piques de vouloir bah, te mêler un petit peu des luttes sociales et donc j'étais un peu complexée par ça et j'osais pas trop en parler, j'osais pas trop le dire et cet article m'a vraiment provoqué un déclic chez moi qui était de me dire mais si justement parle-en, assume-le. Et ce que tu peux faire, toi, de la position dans laquelle tu te trouves, c'est justement d'en parler et de situer très clairement cette bourgeoisie. Et donc, effectivement, j'ai pas voulu faire un roman ricanant, il l'est pas du tout, parce que c'est pas l'objet, c'est juste de la montrer telle qu'elle est. Et effectivement, d'éviter ce bourgeois gaze qu'on peut effectivement retrouver en littérature, hein, que je définirais comment, ben déjà en ayant des personnages, il y a quand même beaucoup de personnages universitaires, alors des personnages d'écrivains déjà, et donc vraiment, tu dis, bon, ça va, je dis pas que c'est inintéressant, mais
C'est vrai
voilà,
qu'il y a beaucoup d'écrivains dans les
il y a
romans et
vraiment
beaucoup
beaucoup
d'écrivains.
d'écrivains dans les romans d'écrivains, beaucoup d'universitaires, beaucoup de gens qui ont fait des études de lettres et tout ça. Il y a quand même beaucoup de romans qui sont situés à Paris, dans les beaux quartiers. Et de nouveau, c'est pas, enfin moi ça me semble pas être un problème. C'est juste, alors si on fait ça, il faut être précis, sûr, il faut situer. Et si ça se passe dans la bourgeoisie, il faut dire que c'est la bourgeoisie. Et donc être assez précis sur les conditions matérielles d'existence des personnages et avoir une approche, assez matérialiste, parce que c'est ça que je pourrais reprocher parfois, c'est on vit dans des beaux quartiers, on met en scène des vies assez confortables et assez luxueuses, et à aucun moment on relie ça à un certain niveau de revenu, et donc je trouve ça c'est pas juste, c'est pas la réalité. Il y a quelque chose d'un petit peu éthéré comme ça, comme si ce monde flottait au-dessus du réel et ne supportait pas les contingences qui incombent à tout un chacun. En fait, si, mais c'est juste que c'est pris en charge par des domestiques, par enfin voilà, tout un certain nombre de personnes qui vont elles-mêmes assumer. Donc voilà, il y a des romans qui se passent dans des très très beaux apparts, très très propres, et on voit jamais une aide ménagère. Ou si on la voit, enfin voilà, c'est nouveau assez condescendant, et on n'est pas très clair sur les rapports de domination qui sous-tendent sa présence dans ces lieux. Ben ouais, je trouve ça. En tout cas, moi, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie justement de dire bon, bah moi, je la connais, je connais ce monde-là, donc je vais pouvoir l'éclairer en plein. et d'aller éclairer les zones d'ombre. Mais voilà, mais c'est pas le sujet non plus de les montrer du doigt et de ricaner. Voilà,
Oui,
c'est juste
parce que
d'être sincère et
c'est
d'être
pas un
juste.
roman à thèse, c'est pas un roman grinçant. Il y a des personnages qui sont attachants, sincèrement. Par contre, c'est un roman qui situe les personnes dans leur environnement socio-économique. Et c'est en ça que d'ailleurs, pour le coup, lutter contre le bourgeois se marie bien avec la littérature, puisque ça donne cet effet de réel très puissant qui est qu'on a l'impression d'avoir vraiment vécu avec eux, quoi.
Oui, et puis ça montre aussi le continuum de la violence. Tu sais, on parle beaucoup du continuum des
Ouais.
violences sexistes, et je crois que il apparaît dans le roman, c'est-à-dire que bah oui, ça commence par des petites choses, et puis ça évolue jusqu'à la violence ultime. Mais ça montre aussi que cette violence-là, elle s'inscrit dans plein d'autres violences qui sont très présentes à cet endroit-là, qui sont évidemment la violence de classe, la violence économique. Arnaud, c'est un petit patron, et donc on voit aussi ses rapports avec ses collaborateurs,
Oui,
parce que
il est dénigrant avec eux. Enfin,
ouais,
en plus, ça marche pas hyper bien. Donc,
ça marche pas très
il a des
bien.
plans, il a des idées un peu foireuses. Ça
Ouais.
marche pas. Il a un peu la rage de ça aussi.
Oui, c'est ça. Et donc oui, il rate en plus parce que bah voilà, bah, de nouveau, il vit dans ce monde-ci. C'est-à-dire que par exemple, il se prend le Covid en pleine gueule, ce qui est pas sa faute non plus. Mais voilà, mais la violence de ses rapports avec ses employés, la violence des rapports justement avec ça aussi, j'avais vraiment envie de montrer hein, les aides ménagères. Enfin voilà, tous ces gens qui participent à ce confort.
Oui, c'est pas neutre d'avoir du personnel de maison, par exemple, dans ton rapport au monde.
Mais non, et d'ailleurs, je trouve que ça peut être aussi un angle intéressant pour regarder la bourgeoisie, comme c'est toujours très difficile je trouve de donner une définition exacte de ce qu'est un bourgeois.
Ouais.
Peut-être que je trouve cette clé de lecture-là, elle peut être intéressante aussi. C'est à quel point est-ce qu'il prend en charge lui-même ses conditions d'existence, ou à quel point il est un assisté. Et plus, évidemment, plus on monte, plus on voit que c'est des gens qui savent rien faire tout seuls.
Ouais.
On l'a vu avec Sarkozy en prison, là, qui sait pas se faire cuire un œuf. À
C'est oui.
70 ans, c'est quand même assez interpellant. Donc, à quel point, oui, il délègue, il sous-traite à différents endroits de leur vie.
Oui, on peut le tourner comme en fait, c'est des gens qui ont des liens de subordination où ils sont en position dominante avec beaucoup de monde. Cet
Exactement.
Arnaud, finalement, ça a beau être un petit patron, n'empêche qu'il a des liens de subordination avec déjà des dizaines de personnes dans son entreprise. Ensuite, ils ont du personnel de maison. Ensuite, on imagine que comme il est en position privilégiée, quand il va dans des entreprises de service et tout, il attend à ce qu'on lui parle d'une certaine façon, ou dans des hôtels, etc., etc. Et donc, l'idée, serait de dire, OK, ces gens-là, qui sont tout le temps habitués à être entendus, ils peuvent aussi avoir ce rapport-là avec leurs proches, potentiellement.
Bah oui, ouais, c'est que forcément, je crois que la violence, elle doit ressurgir à un endroit ou à un autre, et c'est pour ça que je pense les violences intrafamiliales, elles traversent tous les milieux, ça on le sait, tout comme les violences sexuelles. Mais c'est peut-être intéressant de regarder comment est-ce que ces violences est-ce qu'elles sont la conséquence de quoi? Parce que, est-ce que, et de nouveau, c'est multifactoriel, tu vois, c'est les violences qu'on a vécues soi-même en étant enfant. Et est-ce que c'est les violences qu'on subit au travail, ou est-ce que c'est les violences qu'on exerce au travail? Mais de toute façon, on est pris dans des rapports hiérarchiques et dans des rapports de domination. Et donc, je crois que ces rapports de domination, qu'on les subisse ou qu'on les fasse subir, bah, ça crée de la violence dans l'espace intime.
Oui, mais ça, je pense que c'est important dans ta démarche. C'est très clair que tu décris de la violence sexuelle, de la violence conjugale dans un milieu précis, et tu documentes les liens entre ce milieu précis et cette violence, sans pour autant aller universaliser les choses en disant, voilà, c'est le propre de la bourgeoisie que d'exercer de la
Ah non, mais
violence
bien sûr que non.
conjugale. Je précise parce que c'est vrai que c'est des petits malentendus qu'on a pu avoir. Même nous, on a beaucoup documenté ça, à travers l'affaire Epstein, par exemple, donc ce milliardaire américain atroce. Enfin, l'affaire est encore en cours, mais qui avait tout un réseau à une île privée, enfin un réseau de viols sur des enfants, etc. Et en fait, parfois, le réflexe des gens quand on parle de ça, c'est de nous dire la violence traverse tous les milieux. Oui, mais là, ce dont on parle, c'est de la violence de la bourgeoisie.
Oui,
Et
bien
la
sûr,
violence de
ouais.
la bourgeoisie, elle a des déterminants. Et sans doute que la violence dans les classes laborieuses, elle a d'autres déterminants. Mais le déterminant de la violence de la bourgeoisie, c'est effectivement d'exercer une multiplicité de violences, y compris dans les liens de subordination qu'on a avec autrui. Et ensuite, bah, ça donne une sorte de... Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce Arnaud, petit à petit, il prend de l'ampleur, quoi. C'est-à-dire, au début, c'est une sorte d'amant un peu jaloux, on va revenir là-dessus, comme on connaît plein, et à mesure qu'il s'élève socialement, il devient quand même de plus en plus flippant, quoi.
Oui, bien sûr. Est-ce que oui, c'est parce qu'il avance en âge? Est-ce que c'est parce que il est de plus en plus dominant? Je sais pas. Après, Arnaud, c'est vrai que c'est un des rares spécimens qui ne subit, qui a priori a très 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 peu subi la domination. Enfin, je veux dire, il est blanc, il est hétérosexuel, il est bourgeois. Enfin voilà. Il y a peu dans, à part la seule domination, je pense qu'on vit tous et qui est complètement universelle, c'est le fait d'avoir été un enfant. On a tous été enfants, donc on a tous fait l'expérience de cette domination-là. Mais à part ça, Arnaud, ouais, c'est vraiment c'est le super prédateur, quoi. Il est vraiment en haut de la chaîne alimentaire et donc il sait pas trop ce que c'est. Et Aurélie, à sa façon, c'est aussi, à part la seule différence avec Arnaud, c'est qu'elle, c'est une femme et donc elle subit le sexisme, mais c'est aussi quelqu'un qui, je pense, est assez ignorante de ce que c'est subir. Enfin, sauf qu'elle va, elle va en faire l'expérience dans son mariage. Mais au départ, voilà, elle voit pas très bien. Et je pense qu'elle traverse le MeToo en se demandant un peu de quoi on parle, quoi. Ça la concerne pas des masses.
Absolument. On va revenir sur comment ça se passe. Je voulais parler d'une scène en particulier. Dans ce livre, tu retraces les 15 ans entre leur rencontre et le féminicide et le double infanticide. En fait, tu choisis des scènes, vraiment. C'est des scènes. Il n'y a pas de logique d'ailleurs. Hein. C'est pas des scènes. C'est pas une fois par an. Ça peut être. Tu vas prendre des événements significatifs, mais significatifs, ça peut être assez fin. Et par exemple, il y a une séquence. Enfin, ça peut être assez indirect. Il y a une séquence sur laquelle je voulais t'interroger. Tu racontes l'EVJ, comme on dit,
Le
l'EVJF, enfin, l'enterrement de vie
vie de garçon,
de
oui.
garçon. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que c'est des garçons, pardon. Du Arnaud. Donc, ils ont, ouais, quoi, 25, 30.
Ouais, entre 25 et 30 ans, je sais plus
Voilà. Et
exactement, ouais.
donc, bah, c'est vrai que ça aussi, tu racontes bien le mariage dans ces milieux-là. C'est quand même un moment important, quoi. On fait des gros mariages et on fait tous les rituels sociaux. Et parmi ça, il y a l'enterrement de vie de garçon. Et donc, avec ses amis, ils partent en Hongrie, à Budapest, et là, ils organisent tout un tas d'activités. Pourquoi tu as voulu nous raconter ça?
Alors déjà, ils organisent pas, ils sous-traitent de nouveau,
Ah
parce
oui.
que c'est sous-traité par une agence
Ah oui, c'est une agence.
qui s'en occupe, qui est une vraie. Enfin, en l'occurrence, j'ai à peu près rien inventé
D'accord.
parce que cette agence existe pour de vrai et que toutes les activités proposées, en tout cas, sont réelles. Ouais, ça m'intéressait évidemment très fort d'aller voir comment ces garçons se comportent quand ils sont juste entre eux et voilà, de nouveau, ils sont un peu touchants parce que, en fait, ce qui les réunit, enfin, ce qui a en tout cas solidifié très fort leur amitié, bah, c'est le suicide d'un de leurs amis. Donc, voilà, c'est important pour moi aussi de montrer que, enfin, c'est des êtres humains, enfin, c'est avec tout le vécu qu'ils ont et tout. Donc, ils ont aussi des côtés sympas et touchants. Mais en l'occurrence, ouais, quand il s'agit d'aller faire un enterrement de vie de garçon, déjà, ils quittent, ils s'éloignent. Pour pouvoir aller faire leurs bêtises à l'abri du contrôle social.
Oui, donc en fait, on va en Europe de l'Est pour pouvoir avoir une sorte d'immunité, d'impunité,
Ouais.
pour être plus, encore plus sexiste et potentiellement violent, parce que c'est organisé comme tel, ils infériorisent des femmes, enfin,
Ouais.
différentes sortes de
Oui, puis
scènes.
tu peux vomir dans la rue, enfin, tu vois, te bourrer la
Oui.
gueule et des trucs comme ça. Ouais, tu t'en fous, tu risques pas de croiser quelqu'un
Ah
que
oui.
tu connais, quoi. Et puis les gens sur place, tu t'en fous un peu aussi parce que bah, c'est un peu considéré comme un pays presque un peu sous-développé, la Hongrie. Et donc voilà, donc ils vont faire ça et donc oui, j'avais envie de voir. Évidemment, ils vont tirer la Kalachnikov sur des cibles. Ils vont se faire attaquer par un berger allemand en combinaison matelassée, des trucs comme ça et faire un enfin se faire se payer un striptease effectué par une personne de petite taille et après se faire menotter et parce que cette activité existe pour de vrai et
D'accord, tout ça est vrai, ouais.
ça s'appelle Petit Boulet sur le site. Donc vraiment le niveau de déshumanisation, il est hallucinant et c'est la réalité. Et donc, mais eux, ils trouvent ça tellement drôle, quoi. Et parce qu'en plus, Aurélie avait dit, vous faites ce que vous voulez, mais je veux pas de striptease. Et en fait, y a cette femme qui arrive et qui commence à faire son striptease et Arnaud qui dit, mais non, on avait dit pas de striptease. Et puis c'est son pote qui dit, mais non, mais ça compte pas. Ça compte pas parce que elle, c'est pas vraiment une femme,
Ah,
quoi. Donc il y a
d'accord.
vraiment ce ouais, c'est terrifiant et en même temps, de nouveau, je les connais, je les vois. C'est des mecs avec qui j'ai passé mon adolescence. Ça peut être, enfin voilà, ça peut être encore des mecs qui sont pas si loin. Moi, je les fréquente plus, mais des gars que je connais qui pourraient faire ce genre de trucs, j'en connais plein. Enfin, je pense qu'on tous on en connaît plein.
Ouais. Donc, oui, mais ce qui c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, ça joue sur des contrastes sociaux. Et donc, en fait, il y a beaucoup ça. Le Arnaud, c'est le jeune bien sous tout rapport, qui a fait des bonnes études, qui reprend une entreprise, c'est un jeune patron. Ensuite, c'est un bon père de famille, pour reprendre une expression de Rose Lamy, qu'on aime bien ici aussi. Et petit à petit, voilà, il a tous ces aspects, donc il a une vitrine. Ce foyer a une très bonne image, s'il passe pour des gens sérieux. Mais derrière, se met en place, donc tu as utilisé l'expression, un contrôle coercitif de Arnaud vis-à-vis d'Aurélie. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que du contrôle coercitif?
Bon alors je risque d'être très mauvaise sur la définition, mais moi parce que de nouveau tu vois je l'ai décrit de façon hyper minutieuse, donc je sais pas exactement ce que c'est le contrôle coercitif d'un point de vue, je sais pas, psychologique ou quoi, mais en gros c'est enfermer quelqu'un dans une relation toxique par différents procédés qui peuvent être la culpabilisation, là en l'occurrence la surveillance numérique, et de rendre quelqu'un complètement désarmé face à ce qui lui arrive et incapable de comprendre même ce qui lui arrive, ce qui est vraiment le cas de la violence, hein. C'est que finalement, Arnaud n'est pas très violent physiquement, il y a un ou deux épisodes, mais franchement. Mais lui, c'est vraiment de la violence psychologique. Et donc, c'est ce phénomène d'emprise où Aurélie va se retrouver en prison chez elle. Et ça se voit même pas tant que ça de l'extérieur. C'est ça qui est terrifiant, je trouve. C'est que. Mais donc là, moi, je me suis basée, bah, sur des choses que j'ai pu lire et bien sûr un peu de documentation que j'ai pu glaner à droite à gauche, mais aussi vraiment sur des expériences personnelles de copines au pluriel, parce que j'ai eu, mais de nouveau, hein, comme beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés à devoir aider une copine qui était dans une situation, et notamment la surveillance numérique. Ça, je trouvais ça très intéressant parce que comme le roman commence en 2006 et finit en 2021, ben voilà, quand ils se rencontrent, ils ont juste des petits Nokia 3210, et puis ben la technologie évolue au fur et à mesure, et donc évidemment la technologie permet d'autres choses, et notamment la géolocalisation. Arnaud, il va équiper la maison aussi avec des caméras de surveillance extérieure et intérieure. Il est un peu fou de technologie, donc il va aussi mettre les portes qu'on ouvre avec le smartphone, le portail qui s'ouvre automatiquement quand le smartphone approche et tout ça. Et de nouveau, c'est le prétexte, c'est la sécurité, parce que le danger vient de l'extérieur,
Ouais.
parce que il y a ces horribles arabes qui vont venir nous cambrioler, et donc on doit s'en protéger. Alors que, et c'est là que le piège se referme complètement, c'est que pour Aurélie, le danger, il est à l'intérieur de la maison, quoi.
Mais oui, mais en fait, cette question du danger extérieur devient presque une justification qu'il lui oppose d'ailleurs au moment où elle se rebelle un petit peu contre cette surveillance technologique. Et je lui dis, bah, enfin, en gros, il lui dit que c'est pour protéger sa famille. Alors, cette idée toujours de protéger son foyer, etc., qui est quand même très présent dans le discours masculiniste. Hein.
Ouais.
C'est un peu la plus-value des hommes hétérosexuels, visiblement, c'est de pouvoir protéger les femmes et les enfants. Donc, ce confirme pas du tout statistiquement, mais admettons. Et donc, le danger vient de l'extérieur. Et en fait, on voit que ce danger extérieur, il vient presque justifier, ou en tout cas, participer de la violence interne, quoi.
Oui, complètement. Mais oui, et au moment où elle réalise que il la géolocalise, et qu'elle dit, je voudrais bien déconnecter ce machin, et elle pourrait le faire, hein, c'est son iPhone, elle peut aller dans ses paramètres et le faire, et elle lui dit, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu te retrouveras dans une cave à tourner entre 15 racailles, il ne faudra pas venir te plaindre. Et donc, c'est toujours ça, c'est ce truc de... c'est les hommes, c'est les autres hommes qui sont dangereux, et c'est l'étranger, et c'est l'homme issu des quartiers populaires. C'est ça le danger. J'ai perdu le fil de ta question.
Non, en fait, et du coup, ça participe finalement de ce qu'on appelle maintenant le fémo-nationalisme.
Oui.
C'est que
Ouais.
c'est un féminisme, enfin, entre plein de guillemets, qui va s'intéresser aux violences faites aux femmes uniquement quand elles viennent donc de l'extérieur, pour en fait ne pas parler des violences internes non plus, quoi.
Oui, exactement. Oui, ben c'est ça, on le voit très bien, l'extrême droite, c'est vrai qu'il se réapproprie ces thématiques. On a vu notamment Sarah Knafo qui a fait sa campagne là, pour la mairie de Paris avec ce genre d'argument. On va mettre des caméras partout parce que ça suffit, les femmes sont en danger dans l'espace public, ce qui n'est pas faux, hein. Bien sûr, on subit du harcèlement de rue et des violences dans l'espace public, on va évidemment pas le nier, mais c'est uniquement cette partie-là de l'histoire qui les intéresse, et on le voit bien dans la façon dont ils votent dès qu'il s'agit de... Bah, des autres droits des femmes et notamment des histoires et des enfants, eh ben, c'est systématiquement contre, et notamment les droits reproductifs où évidemment on va quand même pas nous autoriser enfin, ou constitutionnaliser l'IVG parce qu'il faudrait quand même pas trop déconner non plus, quoi. Donc ouais, non, c'est... et donc oui, Arnaud, il peut avoir ce côté-là aussi. En tout cas, c'est sûr que... Quand la sécurité d'Aurélie l'intéresse, c'est uniquement, évidemment, ce danger qui pourrait venir de l'extérieur et que finalement Aurélie ne rencontre jamais parce qu'en plus ils vivent, ils sont quand même forts, ils vivent dans leur petite bulle, en vase clos. Donc en plus, c'est pas comme si elle était fort exposée aux violences dont Arnaud parle, quoi, ouais.
Juste, il y a un truc dont je voulais parler vite fait, c'est la question de la jalousie. En fait, le facteur, en tout cas, la justification, ou en tout cas, j'ai l'impression que ce que tu montres dans le livre, c'est que la jalousie d'Arnaud, qui est déclenchée dès le début de leur relation, joue un rôle fondamental. Et je trouve qu'on parle pas finalement tant que ça de la jalousie et de l'impact que ça peut avoir dans des violences conjugales au sein du couple.
Ah oui, bah oui, je pense que c'est un peu un ressort. Tu vois, je n'ai même pas réfléchi, je n'ai même pas théorisé, mais ça me paraissait être un ressort de violence assez classique et assez naturel. Et de nouveau, hein, au départ, elle est un peu flattée parce que il se montre un peu possessif, un peu jaloux, et donc c'est pris. Elle le prend comme une preuve d'amour. Elle se dit, bah oui, tiens, moi. Et puis en fait, ça va complètement, évidemment, s'emballer, dégénérer. Enfin, en fait, c'est même pas que ça dégénère. C'est que je pense que la jalousie, dès le départ, c'est quelque chose de toxique. Ça ne peut que mal se terminer. Donc ça n'est jamais, c'est pas un principe positif qui va mal tourner. C'est que c'est un principe négatif dès le départ. Et ben, on dit, hein, le féminicide, c'est un crime de propriétaire. Et c'est vraiment ça. Arnaud est un propriétaire. Propriétaire au sens, et même au sens concret du terme. C'est-à-dire, et c'est pour ça aussi que je commence le roman dans une étude de notaire, avec la question de la succession. Enfin voilà, tout ça, c'est la question de la propriété traverse, est centrale dans le roman. Et donc, évidemment, la jalousie.
Il y a quelque chose qui m'a un peu frappé dans la promo, et on en a parlé ensemble, hein. C'est qu'en fait, les gens réagissent beaucoup aux questions, enfin, décrivent le livre comme une histoire de féminicide, et souvent la partie infanticide est complètement, enfin, est peu abordée. Comment t'expliques ça?
Bah, peut-être parce que voilà, aujourd'hui les infanticides, déjà, ils sont pas répertoriés. Enfin, on n'a pas de chiffres exacts sur les
Ni en
infanticides
France, ni en Belgique,
ni en
en
France ni en
France.
Belgique. On a une estimation qui est plus ou moins un enfant tous les 5 jours qui serait tué par sa famille. Mais c'est vraiment une estimation et qui est probablement sous-évaluée parce que il y a différentes formes d'infanticide qu'on ne prend pas en compte, notamment les néonaticides, les bébés qui sont tués immédiatement après leur naissance, qui donc n'apparaissent même pas dans les registres nationaux. Et alors les violences qui sont pas détectées, genre par exemple les bébés secoués, enfin le syndrome du bébé secoué, des choses comme ça. Et en fait, les violences faites aux enfants, alors on commence à en parler, mais c'est pas encore, notamment quand un enfant est tué, ça reste un fait divers. C'est encore traité comme un fait divers, comme l'étaient les féminicides il y a encore pas si longtemps, et pas comme un fait systémique. Or, bah, il va vraiment falloir qu'on en parle, quoi. Les enfants, c'est le groupe social le plus discriminé. Et c'est un groupe social qui est tellement particulier. Enfin, alors, si je me lance là-dessus, Mais, alors, ils sont discriminés en partie pour leur bien. Donc, il y a des discriminations qui sont nécessaires. Par exemple, ils n'ont pas le droit de consommer de l'alcool ou de fumer des cigarettes, enfin, ou du tabac. Ils n'ont pas le droit de travailler, mais donc ça les rend dépendants économiquement. Ils n'ont pas le droit de décider où ils vont habiter. Enfin voilà, il y a plein de choses qui, il y a plein de discriminations qui sont là pour un bien, pour les protéger parce qu'ils ont un statut très particulier dans la société. Mais ce qui m'étonne, c'est que justement ces discriminations devraient nous rendre beaucoup plus intolérants aux discriminations qui ne sont pas illégitimes et on l'est pas. Et donc, bah oui, ce qu'on appelle encore, on parle encore hein, de violence éducative. Leur consentement est très très peu respecté. On leur coupe la parole. Enfin voilà. Et de nouveau, je crois que il y a un continuum. À partir du moment où tu dis à quelqu'un, ta parole n'est pas importante, laisse parler les adultes. Ton bruit nous dérange. Enfin voilà, c'est quand même, y a des espaces qui leur sont interdits, non pas pour leur sécurité, mais parce que ils sont considérés comme leur présence est considérée comme nuisible. À partir du moment où on considère une partie de la population comme nuisible, bah il faut pas s'étonner que, bah de nouveau, c'est un continuum. Et donc à un moment, évidemment que ils subissent des violences sexuelles, ils subissent des violences physiques et ils subissent le meurtre. Et donc c'est vrai, c'est étonnant, mais depuis le début de la promo. On parle beaucoup de féminicide et on parle assez peu d'infanticide. Maintenant, il y a peut-être un truc aussi, c'est que bah, Aurélie est le personnage principal. Les enfants arrivent très tard dans le récit. Ils sont tués quand ils sont relativement jeunes. Donc c'est vrai que dans le récit aussi, j'ai pas eu l'occasion de leur donner une place très très grande. Et c'est vrai que volontairement, je me suis pas trop attardée sur leur vécu et leur ressenti. Parce que ça les rend vraiment, enfin, c'était, ça aurait été, bah, ouais, ça aurait été, je
Trop
crois,
horrible, ouais.
assez insupportable, ouais. Donc, c'est vrai que peut-être moi-même, hein, dans l'histoire, je les garde volontairement un petit peu sur le côté, les enfants, ouais.
Bah, merci beaucoup pour cette discussion, c'était
Merci
trop
à
bien.
toi.
J'espère que ça t'a plu aussi.
Ouais, c'est super.
Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que donc Frustration Magazine, c'est un magazine financé à 100% par ses lectrices et ses lecteurs. Donc si vous voyez cette vidéo et qu'elle vous a plu, bah, déjà n'hésitez pas à la partager, à l'envoyer à toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Évidemment, des personnes qui sont sans doute aussi intéressées par le livre d'Adeline. Et puis si vous pouvez aussi nous soutenir, si vous en avez les moyens, vous pouvez retrouver ça sur la description de la vidéo. Merci beaucoup.